Sans plus attendre, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire le passage qui nous concerne aujourd'hui. C'est la deuxième épître de Jean, donc de Jean. Alors, je n'ai pas le numéro de la page pour vos Bibles, mais sachez que c'est tout à la fin de la Bible et en plus ça ne fait qu'un chapitre. Donc c'est très court, c'est limite une seule page. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Jean. Et je vais le lire dans la version second 21. De la part de l'ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commandement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin ne demeure pas dans l'enseignement de Christ. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur choisis, elle aussi, te saluent. Jusqu'ici notre lecture de la Bible. Est-ce que vous avez déjà tenu ou eu entre vos mains un faux billet de banque? Est-ce que vous avez déjà tenu ça entre vos mains? Et si oui, est-ce que vous sauriez dire pourquoi le billet est faux? Alors, on peut peut-être discerner certaines choses. Des fois, il est mal imprimé, il y a des taches d'encre, le papier a l'air, en tout cas, bizarre. Est-ce qu'on arriverait quand même vraiment à déterminer chaque point qui fait que ce billet-là, il est faux? Alors, moi, je ne suis pas un expert de faux billets, hein. Je pense que les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, eh bien, ils savent exactement ce qui fait qu'un billet est faux et ce qui fait qu'un billet est vrai. Et en fait, pour savoir justement comment, pourquoi un billet est faux, il faut savoir exactement comment est un vrai billet, en fait. C'est quand on sait à quoi ressemble un vrai billet que quand on en regarde un faux, on le voit tout de suite, en fait. Il faut le regarder, il faut le toucher, le manipuler. C'est que comme ça qu'on reconnaîtra un faux. Il faut connaître le vrai pour connaître le faux. Alors pourquoi je vous parle de billets de banque, hein? Je ne vous prêche pas l'évangile de la prospérité, hein? Mais j'aimerais que cette image nous permette de comprendre la pensée de l'apôtre Jean ici, dans cette deuxième épître. Jean est l'auteur de cette épître et il est aussi l'auteur qui a écrit l'évangile de Jean. Nous avons lu un texte tout à l'heure. Et en fait, dans la deuxième épître de Jean, enfin Jean, l'auteur reprend les mêmes thèmes que dans sa première épître. Donc quelques pages, une page juste avant celle que vous avez dans votre Bible. Il reprend les mêmes thèmes, sauf qu'il ne va pas rentrer dans tous les détails. C'est un peu une genre de synthèse, très, voilà, une grosse synthèse. Et Jean écrit cette lettre parce qu'il est confronté à un problème que nous rencontrons encore aujourd'hui dans nos églises. Il s'agit des faux docteurs, des faux enseignants qui apportent de fausses doctrines, de faux enseignements dans l'église. Et du coup, ça a pour conséquence d'égarer les croyants. C'est dans ce souci-là que Jean va encourager ses destinataires à s'attacher à la vérité telle qu'elle est enseignée par Jésus et les apôtres. Il leur demande donc de préserver la vérité du Christ pour ne pas tomber dans de faux enseignements. Donc, préserver la vérité du Christ pour ne pas tomber dans de faux enseignements. Comment préserver la vérité du Christ? Eh bien, avec ce texte, je vous propose de voir trois façons de préserver la vérité de Christ. Premièrement, où il est affiché là, premièrement, nous devons connaître la vérité, du verset 1 à 3. Deuxièmement, nous devons marcher dans la vérité, du verset 4 à 7. Et troisièmement, nous devons demeurer dans la vérité, verset 8 à 11. Alors, remarquez qu'il n'y a pas les versets 12 et 13, mais que je ne vais pas les commenter dans notre passage d'aujourd'hui, dans notre prédication d'aujourd'hui. Première partie, nous devons connaître la vérité, du verset 1 à 3. Alors, dans cet épître, Jean se présente comme l'ancien, au verset 1. Alors, on présume qu'il n'a même pas besoin de se nommer, étant donné, on présume qu'en fait, ses dessinateurs le connaissent, donc il n'a pas forcément besoin de se présenter en tant que Jean, juste l'ancien suffit. Et concernant ses auditeurs, enfin ses dessinataires, Jean écrit à la dame, tel qu'il est noté dans nos Bibles. En fait, le mot grec pour dame ici, c'est le féminin du mot grec pour seigneur. De ce fait, on peut dire que la dame dont il est question, c'est le féminin de seigneur en grec. Et donc, soit l'épouse. Et donc, c'est pourquoi beaucoup pensent que Jean écrit plutôt à une église qu'à une femme, qu'à une dame. Et donc, je vais souscrire moi aussi à cette pensée-là, à cette interprétation-là, Jean écrit plutôt à une église. Il va insister sur une chose, la vérité. Ce mot revient à quatre reprises, rien que dans nos trois premiers versets. Et donc, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité correspond tout simplement à la parole de Dieu qui a été révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est bien cette vérité qui fait le lien, qui est le lien qui unit tous les croyants. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le foot. Il y a l'Euro qui est passé il n'y a pas longtemps. C'était un peu triste, hein, pour nous, mais bon. J'ai quand même suivi l'Euro et j'aime beaucoup le foot. Et bon, j'ai un groupe WhatsApp avec pas mal d'amis dessus, un groupe nommé Foot, avec qui on a l'habitude de jouer. Et dans ce groupe, il y a des jeunes, des moins jeunes, des pères de famille, des étudiants. Nous avons des vies complètement différentes. Et pourtant, ce qui nous pousse à nous retrouver sur un terrain de foot, eh bien, c'est le plaisir et l'amour du foot. En fait, je pense qu'en dehors du foot, il n'y aurait que quelques personnes dans ce groupe avec qui j'aurais des affinités où on pourrait vraiment s'entendre. Eh bien, quand j'en parle de la vérité, c'est la même chose pour les croyants. C'est la vérité qui unit tous les croyants. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous partageons le même amour pour la vérité. Je suis venu que deux fois ici, en tout cas c'est ma deuxième fois ici, je ne connais pas personnellement tout le monde, et puis inversement. Mais si nous pouvons nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur ensemble, eh bien c'est par et grâce à la vérité. C'est dans cette même vérité que Jean peut dire à l'Église à qui il écrit qu'il les aime. C'est dans cette vérité aussi qu'on peut aussi, nous pouvons aussi nous aimer. Connaître la vérité, en fait, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Il y a du coup un lien direct entre connaître la vérité et être chrétien. Mais ce n'est pas tout. Nous devons connaître la vérité, car, rappelons-nous, lorsque Jean écrit, il a en tête les faux docteurs. Si nous connaissons l'enseignement de Jésus qui nous vient des apôtres, alors nous saurons reconnaître les faux enseignements. C'est comme notre billet de banque, rappelons-nous. Si on connaît ce qu'un vrai billet, on reconnaîtra ce qu'un faux billet. Il est primordial de connaître la vérité pour faire face aux faux enseignements. Et comment connaissons-nous la vérité? Comment apprenons-nous la vérité? Ouvrons nos Bibles, tout simplement. Ouvrons nos Bibles et lisons la parole de Dieu. Nous avons entre les mains la meilleure façon de connaître la vérité. Alors, je sais que la lecture de la Bible peut être fastidieuse, un peu difficile parfois. Souvent, on ne sait pas trop quoi lire. On ne sait pas combien de chapitres lire quand on ouvre notre Bible. Combien de temps on doit lire? Eh bien, sachez qu'on peut trouver sur Internet des calendriers de lecture de la Bible et qui vous permettront de lire de façon régulière la parole de Dieu. Si on ne sait pas comment s'y prendre, prenons juste un calendrier de lecture. C'est dans les moments de lecture de la parole de Dieu que le Saint-Esprit ancrera en nous la vérité. Notre deuxième point, nous devons ensuite marcher dans la vérité. Versets 4 à 7. La vie chrétienne ne se résume pas à connaître simplement la vérité. Mais nous ne devons pas seulement l'étudier, mais nous devons la pratiquer. La vérité est quelque chose que l'on fait. Jean exprime sa joie. Il exprime sa joie dans les versets 4 de voir des croyants qui marchent selon la vérité. L'idée de la marche ici, c'est l'idée de l'action. Ici, c'est des gens qui vivent dans la vérité, selon la vérité. Il n'y a pas qu'une compréhension de la vérité, il y a vraiment quelque chose à faire. Reprenons l'image du foot, vu que j'aime beaucoup le foot. Si jamais je connais très bien les règles du foot, les hors-jeux, les coups francs, les pénalties, etc. Si je connais toutes les équipes de tous les championnats, si je regarde tous les matchs à la télé, est-ce qu'on peut dire que je suis un footballeur? Évidemment que non, on ne peut pas. Pour être appelé footballeur, il faut que je connaisse bien sûr le règlement, sinon ça va être compliqué, mais que je le pratique régulièrement. Eh bien, c'est la même chose pour le croyant. Il doit connaître la vérité, mais en plus de cela, il doit le pratiquer. Il doit le pratiquer, et d'ailleurs, c'est bien un commandement qui vient de Dieu, selon le verset 4. Jean va ensuite donner une recommandation, un autre commandement au verset 5. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Alors, c'est un commandement qui n'est pas nouveau, d'après ce que Jean dit. D'ailleurs, on a sûrement fait le lien avec ce qu'on a lu tout à l'heure en Jean 13. On a déjà vu tout à l'heure on peut faire le lien avec ce que Jésus a dit à ses disciples à la veille de sa mort quand il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Alors Jésus, dans les évangiles, il dit que c'est un commandement nouveau. En fait, il est nouveau dans le fait que Jésus l'accomplit d'une façon que personne ne l'a fait auparavant. C'est un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour les autres. Et donc, en quoi consiste l'amour? Eh bien, selon le verset 6, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements, aux commandements de Dieu. Alors, là, ça a l'air d'être un peu brouillon, ça a l'air de tourner en rond. Le commandement de Dieu est d'aimer, mais pour aimer, il faut obéir au commandement. Alors, pour comprendre tout ça, il faut comprendre le lien qu'il y a entre les commandements de Dieu et l'amour de Dieu. En fait, les commandements de Dieu sont le reflet de la personne de Dieu, et notamment de son amour. C'est quand une personne exprime ce qu'elle désire qu'on arrive à discerner comment elle est. Par exemple, lorsqu'on interdit à un enfant de jouer avec un couteau, est-ce que c'est pour l'embêter et l'empêcher de s'amuser, ou est-ce que c'est parce que justement on l'aime et qu'on ne veut pas qu'il se blesse? Pour Dieu, c'est exactement la même chose. Si Dieu déclare qu'il ne faut pas commettre de meurtre, eh bien c'est bien parce qu'il aime l'homme, sa créature, et qu'il ne veut pas qu'il lui arrive malheur. Les commandements de Dieu ne sont qu'une manifestation de son amour. Et donc, si nous pratiquons les commandements de Dieu qui sont amour, nous aussi nous manifestons notre amour pour notre prochain. On peut se poser la question, mais est-ce qu'il est possible d'aimer sur commande? En fait, notre conception de l'amour aujourd'hui dans le monde, c'est basé surtout sur les sentiments, sur les émotions. L'amour chrétien se définit comme un acte de la volonté. Aimer, c'est agir. Nous devons traiter les autres de la même manière que Dieu nous traite. Et ce n'est qu'en comprenant cela que nous avons la possibilité d'aimer les personnes qu'on a du mal à supporter. Repensons au fait que Dieu ne nous a pas seulement aimés avec des sentiments, avec des émotions, mais il a agi en envoyant son propre Fils mourir à la croix, à notre place. Jean 3,16, je ne vous le cite pas, mais c'est un verset bien connu. Et tout ça, il a fait tout ça lorsque nous étions encore ses ennemis, selon Romains 5, verset 10. Alors cela pourrait paraître étonnant. Est-ce que vraiment on était ses ennemis? Est-ce qu'on n'avait pas quand même une vie plutôt tranquille? En fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour être ses ennemis? Eh bien, ce qu'on a fait de mal, c'est de ne pas reconnaître Dieu comme notre créateur, comme l'être suprême à qui qui mérite notre adoration. Ce que nous avons fait de mal, c'est de rejeter l'autorité de Dieu dans notre vie. Nous avons préféré vivre une vie comme bon nous semble. Mais il faut savoir que ce Dieu créateur est aussi un Dieu juste. Il ne peut supporter l'injustice. Et dans sa justice, il jugera le monde. Il jugera le monde et ceux, nous qui avons refusé de lui obéir, de lui rendre l'honneur qui lui revient, nous serons jugés. Et la seule chose qui nous attend, c'est la mort éternelle. Dieu, dans son amour, a agi pour nous. Il nous envoie son Fils dans le monde. Il vient en homme et c'est à la croix que Jésus meurt à notre place. Il paye pour notre transgression, pour notre rébellion, pour le fait que nous ne voulons pas de Dieu. Il paye le prix. Et c'est le message ici de l'évangile que nous devons conserver et proclamer au monde entier. Si nous acceptons ce que Jésus a fait à la croix pour nous, alors nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Ensuite, nous devons, troisièmement, demeurer dans la vérité. Versets 8 à 11. En fait, Jean donne ici, dans ces versets-là, un avertissement contre un danger qui guette les croyants. Il s'agit de faux docteurs donnant des enseignements qui ne sont pas fidèles à la vérité. Ces personnes sont appelées des antichrists. En fait, c'est des personnes contre Christ. Dans notre passage, dans ce passage-là, il y avait une hérésie appelée le docétisme qui niait l'incarnation de Jésus en tant qu'homme. En fait, il concevait le monde selon la pensée grecque qu'on appelle le dualisme. C'est une pensée qui dit qu'il existe deux principes fondamentaux et deux principes contraires aussi, le bien et le mal. Ça existe depuis toujours. Le bien est représenté par tout ce qui est non matériel, voilà, l'esprit, et le mal est représenté par tout ce qui est matériel, donc la matière. De ce fait, il mélangeait cette pensée philosophique grecque à la foi chrétienne. Et le résultat, c'est que Jésus, qui est bon, Dieu qui est bon, le Fils de Dieu, ne peut s'incarner en homme, il ne peut être matière, car la matière est mauvaise. Or, nous savons qu'il fallait bien que Jésus soit un homme pour pouvoir prendre le péché des hommes à la croix. Il fallait que Jésus soit un homme pour représenter l'humanité à la croix. La parole de Dieu affirme clairement que Jésus est venu en tant qu'homme. Jean 8, 40, 1 Timothée 2, 5. Nous devons maintenir que Jésus est 100% homme et 100% Dieu, tel qu'il nous l'est affirmé dans la parole de Dieu. Si nous retirons, si nous changeons, modifions l'un de ces aspects, nous touchons au fondement même du christianisme. Nous devons être réellement attachés à cette vérité, de peur de tomber dans de faux enseignements. Alors, le docétisme, peut-être, n'est plus répandu dans nos églises aujourd'hui. Mais il y a une quantité d'hérésies qui touchent à la personne de Jésus. Les témoins de Jéhovah nient la divinité du Christ et le considèrent simplement comme une créature. Une secte appelée la science chrétienne, eux, distinguent entre l'homme Jésus et le Christ. Ils les distinguent et ils y voient deux personnes différentes. Est-ce que on saurait défendre la vérité face à ces enseignements? Alors, j'aimerais vous encourager toujours à vous poser cette question lorsque vous entendez un enseignement. Est-ce que ce que j'entends est conforme à la parole de Dieu? Il faut tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. En Actes 17, verset 11, les chrétiens de Bérée vérifiaient tout ce que l'apôtre Paul leur prêchait. L'apôtre Paul qui est le summum du croyant. Et c'est bien ce comportement-là que nous devons adopter. Alors, il en va de même pour toutes les prédications que vous entendez, que ce soit ici ou ailleurs. Jean va nous demander, et demande ensuite, de ne pas accueillir les personnes porteurs de faux enseignements, selon le verset 10. Alors, peut-être on se dit, on est à l'abri à l'église. J'imagine que Kiss filtre assez bien les intervenants qui viennent. J'espère qu'il m'a bien filtré aussi. Mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait que peut-être qu'ils ne viennent pas chez nous, dans nos églises. Mais peut-être que c'est nous qui allons vers eux. Avec Internet aujourd'hui, nous avons accès à toutes sortes d'enseignements et venant de n'importe qui. Nous sommes bombardés d'informations. Et comment arrivons-nous à faire le tri entre ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas? Sachons avoir du discernement. C'est vraiment dans cette situation qu'il faut être attaché à la vérité. Il faut demeurer dans la vérité. Et comment on peut faire pour demeurer dans la vérité? Eh bien, comme notre billet de banque, il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Je vous encourage à l'étude de la parole de Dieu. Je vous encourage à la formation sous toutes ses formes. Alors, certains pourront aller se former à temps plein, d'autres peut-être pas. Et sachez que les instituts bibliques proposent des programmes à la carte, le samedi, le soir. Voilà, vous pouvez, je pense, même en discuter avec Samuel qui peut vous en parler, avec Kiss aussi. Il y a moyen de se former. De plus, avec l'année qu'on a vécue et que tout le monde a commencé à utiliser Zoom, donc je pense que tout le monde commence à être à l'aise avec des ordinateurs, il y a toutes sortes il y a pas mal de blogs, de sites chrétiens qui organisent des webinaires, qui écrivent des articles avec notamment des personnes compétentes. Et là, vous pouvez demander conseil, je pense, à votre pasteur qui vous aiguille, en fait, qui vous guide vers des blogs, des articles sérieux. En fait, la crainte ici est de suivre ces enseignements et de ne pas recevoir une pleine récompense. Nous ne parlons pas ici de la perte du salut, mais des récompenses que Dieu accorde au croyant qui a vécu une vie riche d'œuvres bonnes. Nous ne pouvons pas porter du fruit avec une mauvaise compréhension de la vérité. Encore une fois, pour revenir à l'image du foot, décidément j'aime beaucoup le foot, hein. Il est évident que je ne pourrai pas jouer correctement au foot si j'ai une mauvaise compréhension du règlement. Demeurons dans la vérité. Pour conclure, la vérité, nous voyons qu'elle est centrale dans la vie chrétienne. Et la fidélité à la parole de Dieu est ce qui nous permettra de vivre une vie qui plaise à Dieu. Si nous n'avons pas de fondement solide, nous serons des proies faciles à toutes sortes de faux enseignements. Et le ton ici que l'apôtre Jean utilise est assez dur, hein. Il dit « ne les saluez pas, ne les accueillez pas chez vous ». Le ton est dur car le danger est réel. Rappelons-nous de notre billet de banque. Je pense que cette image me parle beaucoup pour déceler ce qui est vrai, ce qui est faux. Si nous savons exactement ce qui est vrai, on sait exactement. On saura reconnaître ce qui est faux. Cependant, restons sur nos gardes. Les faux billets peuvent, au fur et à mesure, ressembler de plus en plus aux vrais billets de banque. Tout comme les faux enseignements peuvent de plus en plus ressembler à la vérité. Alors ne restons pas sur nos acquis. Observons, étudions, pratiquons, expérimentons continuellement la vérité. Il nous faut préserver la vérité du Christ. Et par-dessus tout, demandons à Dieu, dans la prière, de nous accorder de toujours être attaché à la vérité. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, te remercier pour cette deuxième épître de Jean, certes qui est courte, mais qui est tellement riche aussi. Merci Seigneur pour ces avertissements, il y a déjà plus de 2000 ans et qui sont toujours d'actualité. Merci parce que tu nous mets en garde. Et Seigneur, nous voulons appliquer ce que l'apôtre Jean écrit dans cet épître. Nous voulons préserver la vérité. Nous voulons toujours rester fidèles. Nous ne voulons pas tomber dans de faux enseignements. Alors Seigneur, donne-nous les moyens, accorde-nous par ton esprit de toujours mieux saisir, de comprendre la vérité, ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons que cette parole continue à résonner dans notre cœur tout au long de cette semaine. Alors, nous te demandons vraiment que nous puissions trouver du temps à la lecture de ta parole. Seigneur, je te prie de bénir toutes les personnes ici présentes. Nous te remettons ce moment entre tes mains. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Thank you.